commençons ce libre journal du lundi soir avec la chronique du grand large de maître Patrick Simon.
Pendant cette période estivale, je me propose de vous lire quelques extraits du dernier livre de François-Olivier Gisbert, « La France est-elle un pays communiste ?» en espérant vous donner envie de le lire. Alors, voici pour commencer un dialogue que l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a eu avec Gisbert. C'est Giscard qui parle. Si on étudie les sondages, 90% des Français qui vont voter pour le candidat de la gauche ne contribuent pas au PIB du pays, c'est-à-dire à sa richesse nationale. Ce sont eux qui ont le pouvoir désormais et tout le monde, à droite comme à gauche, devra en tenir compte à l'avenir. Gisbert répond « Voulez-vous dire que nous sommes entrés dans un système dont nous ne pourrons plus sortir ? En tout cas, on n'en sortira pas sans drame. Car ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement un effondrement économique, conséquence entre autres de la désindustrialisation, c'est aussi et surtout un affaissement psychologique général. L'effort du pays n'est plus porté que par une minorité de Français qui sont maltraités, surtaxés, quasiment traités comme les parias de la nation. » Giscard reprit. Quand on regarde les chiffres, la réalité s'impose, nous sommes en pleine décadence. Notre économie déclinante repose sur le travail d'un tiers seulement de la population qui innove, produit, trime pour tous les autres. Ce tiers-là n'acceptera pas indéfiniment l'injustice de son sort. Nous allons au-devant d'un drame majeur. Allons, dis-je pour le plaisir de le contredire, « ça fait longtemps que ces deux Frances vivent ensemble et qu'elles se supportent. » Giscard répond « oui, mais nous arrivons au point de rupture. En dictature, ça peut tenir longtemps. En démocratie, non. Ceux qui profitent de la situation, c'est-à-dire de ce communisme qui ne dit pas son nom, sont en position de force et en veulent toujours plus. Écoutez comme ils braillent pour un oui ou pour un non. » Ils ont le vrai pouvoir, tous les gouvernements ont peur d'eux. Avec la majorité de la classe politique, les médias, avec les syndicats, des économistes à leurs bottes et des manifestations de rue, ils défendent bec et ongles leurs intérêts, leurs retraites, les allocations, ils n'ont que ça à faire. Les autres n'ont pas le temps, figurez-vous, ils travaillent sans arrêt. Prenant notamment appui sur le statut de la fonction publique, ces maîtres du système n'aiment pas travailler. Ils ne pensent qu'à leurs vacances ou à leur retraite et entendent vivre de plus en plus sur la bête, c'est-à-dire sur la minorité agissante, la pointe avancée, celle qui fait tourner l'économie en se vautrant dans l'affreux capitalisme et que l'État taxe inconsidérément, la poussant souvent à quitter le pays pour trouver des cieux plus cléments. « Tout est-il vraiment perdu » protestai-je. « Mon espoir, » répond Giscard, « c'est que la jeunesse prendra le contre-pied des générations précédentes qui s'étaient imaginées que nous sommes venus sur Terre pour prendre des vacances perpétuelles aux frais de la princesse avant de partir en retraite à 60 ans. Si rien ne bouge, la situation empirera, les tensions grandiront et nous connaîtrons peut-être une nouvelle révolution quand la clique au pouvoir, ses agents et ses rentiers auront réussi à chasser les forces vives du pays afin de s'approprier leurs biens. Mais comment pouvez-vous penser que le tiers des Français qui créent de la richesse se laissera faire ? Réponse de Giscard, parce qu'il est appelé à se rétracter de plus en plus. C'est quelque chose qui reste indicible, mais on peut se demander si nous ne sommes pas en train de devenir un pays de fonctionnaires. Je n'ai rien contre eux, mais ils ne comprennent ni ne supportent ceux qui produisent. Tandis que le pays vit au-dessus de ses moyens, le secteur marchand productif est devenu le parent pauvre avec des boulets fiscaux aux pieds et il est censé subvenir aux besoins de tous les autres qui le jalousent ou le détestent. C'est comme si on demandait à un âne de tirer une charrette avec un éléphant dessus. Ça ne pourra pas marcher longtemps. L'âne se révoltera ou il mourra. Ah, voilà, un petit extrait. En voici un autre extrait. L'inventivité bureaucratique n'ayant pas de limite, je suis sûr que de nouveaux règlements, à moins que ce ne soit d'absurdes comités Théodule, sont en préparation pendant que j'écris ces lignes. Rien ne semble en mesure d'arrêter le mouvement. Les chiffres ne peuvent donc qu'augmenter. Il n'y a pas si longtemps, l'État comptait au minimum 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, autant d'extensions de l'administration qui ont donné à la France, pour prouver leur existence, 400 000 normes ou 100 000 articles du Code du travail. Des réglementations qui coûtent, selon certaines estimations, qui coûtent 4 points du PIB contre 0,5 chez beaucoup de nos voisins européens. Quitte à aggraver mon cas, que l'on me permette de citer encore Milton Friedman, qui disait que la tragédie commence quand, je cite, « l'État fait beaucoup de choses qu'il n'est pas obligé de faire », ce qui l'amène à faire mal les choses qu'il est obligé de faire. N'est-ce pas l'analyse la plus pertinente de notre situation actuelle? Et enfin, pour terminer, je voudrais citer un dernier extrait. Le voici. « C'est ainsi que la France est devenue le paradis des fonctionnaires ». Elle en compte proportionnellement beaucoup plus que la plupart des pays européens. Selon l'OCDE, il représentait chez nous 20% de la population active en 2022, derrière la Norvège, dopée par son pétrole, mais très loin devant l'Allemagne, 11,6% et non pas 20%, ou l'Italie, 13,7% et non pas 20%. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions si la France est le pays le plus désindustrialisé d'Europe. Avec 90 fonctionnaires pour 1000 habitants, la France bat largement l'Allemagne, qui plafonne à 58. Elle en a 7 millions contre 4,7 millions outre-Rhin, où la population compte 15 millions d'habitants de plus. Je n'ai bien sûr rien contre les fonctionnaires dont nous avons tous besoin. Je leur suis d'autant moins hostile que, comme tous les Français, j'en ai toujours compté dans ma famille, à commencer par ma mère, professeur de philosophie au lycée d'Elbeuf, qui ne chômait pas, même si, à l'en croire, tous ses collègues ne pouvaient en dire autant, et en particulier ceux de la CGT qu'elle qualifiait, c'était selon, de pépinière de tir au flanc ou d'école de la grève. Il est vrai qu'elle militait à la CFDT. C'était au siècle dernier, bien avant les 35 heures, quand beaucoup ont commencé à compter pour les monnayer les minutes de travail supplémentaires. Voilà, la suite au prochain numéro des extraits de ce merveilleux livre « La France est-elle un pays communiste ?» Ce sera le 20 juillet, la prochaine fois. C'était Patrick Simon, merci de m'avoir écouté.
Merci Patrick Simon, et effectivement, rendez-vous lundi prochain à même heure pour une nouvelle chronique du Grand Large. Et tout de suite, retrouvons François Costantini qui reçoit aujourd'hui Pascal Mas et Richard Haddad.
Amis auditeurs, bonjour, bonsoir, j'ai le plaisir d'accueillir comme pratiquement à chaque fois mon cher commensal Pascal Mas, qui est conseiller diplomatique et spécialiste des BRICS. Pascal Mas, bonsoir.
Bonsoir François.
Et Richard Haddad, qu'on ne présente plus, qui est un habitué de Radio Courtoisie, qui est un écrivain, éditeur, auteur de 3 livres notamment sur le Liban, « Deux négations ne font pas une nation », une histoire des phalanges des catalans libanaises et un livre consacré au génocide des chrétiens du Liban. Richard Haddad, bonsoir.
Bonsoir François.
Voilà, et j'en profite justement pour placer un peu cette émission pour l'hommage. Hein. C'est un peu la chanson des hommages. Je voulais penser il y a 50 ans à un jeune corse comme moi qui s'appelait Stéphane Zanettach et qui s'était engagé. C'était un militant national de l'université à Paris, originaire de la ville de Cargès, vous savez, qui est une ville de peuplement grec catholique en Corse, et Stéphane Zanettach s'était engagé, alors qu'à l'époque, les Libanais voulaient que les jeunes Français restent un peu à l'arrière, ils ne voulaient pas qu'on risque pour leur vie, ben lui était monté à l'assaut en costume de ville, et une mitraillette à la main, il était monté à l'assaut à Tel el-Zaatar, il avait été mortellement blessé. Voilà, je souhaitais un peu placer cette émission sous l'égide de la mémoire, du souvenir du sacrifice de Stéphane Zaletacci.
En 1976,
Richard Haddad,
François,
quelques mots, bien sûr.
Je voudrais corriger l'article du Monde sur ce sujet.
Oui, qui est sorti il y a quelques jours là-dessus.
Voilà, ouais. et qui dit que cet assaut a été mené par les milices chrétiennes et l'armée syrienne, ce qui est totalement faux.
Totalement faux, ouais,
mais enfin, c'est toujours comme ça, les journalistes, ils traitent un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. L'armée syrienne n'avait rien à faire là-dedans, elle n'était même pas au Liban en 1976.
Il y avait une partie de l'armée libanaise d'ailleurs, l'artillerie de l'armée libanaise,
comme
la
toujours,
partie chrétienne.
Hein, oui, voilà. La partie chrétienne qui volait les munitions pour les donner aux miliciens. Et il y avait des agents du Mossad aussi qui les renseignaient.
Voilà, hein, encore une fois, le monde qui connaît mal un peu sa géopolitique. Et d'ailleurs,
on regrette Perron Celugos.
Pardon,
on regrette.
En effet,
qui était un journaliste du Monde,
qui avait écrit un très grand
sujet.
Livre qui s'appelle Le radeau de Mahomet, justement.
Absolument.
Et une croix sur le Liban.
Une croix sur le Liban, un excellent livre.
Très intéressant. Alors aujourd'hui, notamment, nous allons traiter, bien sûr, comme d'habitude, de l'actualité internationale. Nous avons retenu comme thème, notamment, la situation entre l'Iran et les États-Unis, hein, qui semble évoluer de jour en jour, si ce n'est dans l'heure. Les négociations entre le Liban et l'Israël, alors qui se déplacent, hein, qui vont avoir lieu en Italie, je crois, hein, c'est ça. Le sommet également de l'OTAN, mais qui avait lieu à Ankara particulièrement, justement, qui a donné lieu peut-être à un certain nombre d'arrangements, en effet, sur la question du Proche-Orient. Question du Proche-Orient également, qui a été le fait notamment du président français Emmanuel Macron. Nous évoquerons ce voyage singulier et cette relation non plus singulière entre Emmanuel Macron et Jolani. Je continue à appeler Jolani parce que moi, il s'est fait appeler El Charret, mais Jolani, le terroriste qui était proche de Daesh et d'Al-Qaïda, pour moi, c'est toujours le même. Donc,
mouillé dans l'affaire du Bataclan.
Qui a approuvé également l'affaire du Bataclan, avec des gens également de chez lui qui ont participé en tout cas à l'action terroriste. Moi, je continuerai à l'appeler Jolani, à l'appeler du nom du terroriste qu'il est et qu'il restera toujours. Nous évoquerons également, dans la continuité du président français, cet ultime défilé du 14 juillet d'Emmanuel Macron, singulier, etc., et cette signature de sortie d'Emmanuel Macron, puisque il y a aujourd'hui un sommet des 25 pays dits alliés, notamment dans l'Ukraine, avec l'Ukraine, la présence du président ukrainien, et alors pas d'un certain nombre de soldats, notamment de pays dits alliés, avec notamment, je crois, des Slovaques, des Roumains, des soldats des pays baltes, et 25 soldats ukrainiens qui fermeront le défilé. On verra comment cela et sonne un petit peu la sortie d'Emmanuel Macron et pourquoi, tant sur le fond que sur la forme. Et nous évoquerons alors là également la relation entre la Pologne et l'Ukraine, relation assez singulière, hein. Il y avait des relations historiques qui étaient assez structurelles, hein, entre la Pologne et l'Ukraine. Là, visiblement, il y a une décision notamment du président ukrainien de baptiser du nom d'une nouvelle unité tristement célèbre,
ouais.
Et qui fait que je crois qu'on projette même de retirer à Zelensky la plus haute distinction polonaise.
Ça a été fait. C'est fait, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que les Polonais qui s'insurgent.
Qui est toujours sur le front de l'Est, hein, n'a pas changé depuis des décennies, nous donnera des nouvelles du front de l'Est dans ce domaine.
Il n'y a pas que les Polonais qui s'insurgent, c'est un scandale absolument terrible.
Nous en parlerons, cher Pascal Mas. Alors, tout d'abord, la situation entre l'Iran et les États-Unis. Alors, vous savez que nous avons eu un accord, notamment il y a à peu près 3 semaines, un accord notamment qui a semblé un petit peu aller à contresens, notamment des intérêts des 3 peuples. Il semble que 3 peuples ont été oubliés, le peuple iranien, 55 000 morts depuis le mois de début janvier. Hein, si on compte la révolution depuis 2021-2022, on serait à 150-200 000 morts, notamment tués de sang-froid gratuitement dans les conditions les plus atroces, sans compter les gens torturés et emprisonnés. Le peuple libanais qui, lui, est toujours soumis au phagocytage du Hezbollah et la prise en otage notamment du Hezbollah et de l'Iran, et le peuple israélien qui n'est pas pour autant sorti, pour une fois, de l'insécurité chronique que produit notamment le Hezbollah sur le territoire, et voire le Hamas, hein, puisque le Hamas, il faut le rappeler, est toujours sur place, même si on parle de dissolution de son gouvernement. Alors, la situation Iran-États-Unis, il semble en tout cas aujourd'hui que l'Iran, à mon sens, a lu de façon favorable un accord qui était rédigé de façon plutôt favorable, notamment l'article 5 de l'accord qui avait été signé sous les lambris du château de Versailles, notamment qui dit c'est au bon vouloir de l'Iran que la navigation dans le détroit d'Ormuz a lieu. Et moi, je pense que l'Iran veut en quelque sorte bosphoriser le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire faire comme la Turquie, qui, elle, et la maîtresse est souveraine sur les deux côtés du Bosphore, parce que les Britanniques l'avaient voulu pour l'Empire ottoman et que ça a continué. Qu'en plus, ils ont fait inscrire ça dans le marbre des traités internationaux par la Convention de Montreux de 1936, et que justement, ils veulent faire finalement du détroit d'Ormuz en faisant fi de toutes les règles internationales, toutes les règles de souveraineté maritime et du droit de la mer, même s'ils n'ont pas signé la Convention de Montego Bay en 1982 sur le droit de la mer là-dessus, et bien de faire en sorte qu'ils soient les maîtres du détroit d'Ormuz. Alors déjà, d'une part, sur ce plan, je voudrais vous interroger d'abord vous, Richard Haddad, où en sommes-nous, et est-ce que les États-Unis, finalement, n'ont pas acquiescé avec cet accord et n'ont pas, en quelque sorte, lâché du lest et redonné la main à l'Iran?
Alors, en fait, bon, je vais revenir sur cet accord, mais d'abord, une petite parenthèse. Il y a quand même une très grande... Alors, l'Iran et ses copains au Liban et ailleurs sont des spécialistes de la manipulation des textes et des conventions internationales, parce que faut pas comparer l'incomparable. Alors ils veulent faire du Golfe, du détroit d'Ormuz, le Bosphore ou le Panama ou Suez. Sauf que je rappelle juste que c'est pas pour défendre les Turcs, hein, loin de là, mais les deux rives du Bosphore appartiennent à la Turquie, oui. Ainsi que les deux rives du canal de Suez appartiennent à l'Égypte, ce qui n'est pas le cas du détroit d'Ormuz. Alors ce que veulent les Iraniens est infaisable, c'est-à-dire ils veulent contrôler, mettre sous leur coupe un détroit dont l'autre rive ne leur appartient pas. Donc ça, c'est juste impossible, personne n'acceptera ça.
Oui, imposer notamment leur voie maritime,
oui,
proche de leur côte.
De l'autre côté, il y a Oman, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Qatar, il y a le Koweït, etc. Et ils ne peuvent pas imposer ça, c'est juste inacceptable. Alors le traité, alors le problème c'est que Donald Trump était pressé de signer un accord avec eux pour d'autres raisons, internes, parce qu'ils n'aiment pas les guerres, pour mille raisons. Il était pressé de conclure cette guerre, il pensait qu'elle allait se terminer vite, elle ne s'est pas terminée rapidement. Il avait fait un blocus, rappelons-le, sur le pétrole iranien qui fonctionnait fonctionnait plutôt. Avec, évidemment, jamais un blocus ne peut fonctionner à 100%, mais c'est quand même, ça commençait à leur faire mal. Mais ça prend du temps, un blocus. Et donc, lui était pressé. Il a envoyé des non-spécialistes négocier avec l'Iran, un pays où il n'a plus de chef. Parce qu'on ne peut plus pas signer un traité avec un pays où il n'y a pas de chef. Parce qu'il y en avait un, il est mort. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui dirige ce pays. Et donc, comme vous pouvez signer avec M. X et M. Y qui torpille l'accord que vous venez de signer. C'est ce qui est en train de se passer en réalité. Et donc, cet fameux article 5, chacun l'a interprété comme il veut. Et encore une fois, les Iraniens sont les spécialistes de la réinterprétation des textes. Hein. Et donc, il n'a jamais été question pour les Américains que ce détroit soit payant. Et pour les Iraniens, il en était parfaitement question. Et dans tous les cas, en dehors de cet article 5, ce genre de traité qui était très en faveur des Iraniens, alors que Donald Trump avait critiqué pendant des années ce qu'avait fait Obama avec son fameux traité avec l'Iran, il a fait plus ou moins la même chose, voire pire. Et donc ça ne pouvait pas durer. Vous signez un traité avec un pays de tricheurs et de menteurs, et en plus de ça, il n'y a pas de chef. Donc ça ne pouvait pas durer. Moi, j'avais dit que au mieux, il y aura une nouvelle guerre dans 5 ans. Et bien c'était au bout de 50 jours.
Pascal Mas, votre opinion notamment sur l'accord entre l'Iran et les États-Unis et la situation actuelle qui en résulte?
Alors, comme je le dis toujours, il faut bien penser que Donald Trump est un homme d'affaires. Donc, il a cru qu'en tant qu'homme d'affaires, il suffisait de signer un contrat pour que les autres le respectent. Et il s'est aperçu qu'il avait face à lui des gens qui n'ont qu'une parole et qui sont capables de réinterpréter tout ce qu'ils ont signé le lendemain dans le sens inverse. Et c'est pour ça qu'il est furax, parce qu'il a cru que signer un accord avec l'Iran, c'était comme si on signait un accord de commercialisation d'un hôtel en Suisse. Bon. Ben, et en plus, il est mal conseillé, ça c'est évident, je crois que ça se voit de plus en plus. Mais de toute façon, globalement, les Américains, depuis 79, ne comprennent rien à ce pays, qu'est l'Iran. Et qu'ils croient que c'est un pays arabe, avec des gens qui gardent des chèvres, etc. Bon, ils comprennent rien, comme ils n'ont rien compris au Vietnam, comme ils n'ont rien compris à l'Afghanistan, comme ils n'ont rien compris à rien. Bon, donc là, aujourd'hui, Donald Trump se trouve désappointé, parce que il pensait réellement, sincèrement, pouvoir régler cette affaire-là en quelques jours, quelques semaines, et puis ça prend des années, ça prend des mois pour l'instant, et ça peut prendre des années. Parce que en face, il y a d'autres gens. Et puis en plus, c'est pas des rigolos, les Iraniens. Hein, c'est pas des marchands de chèvres, c'est pas des gardiens de chameaux. Donc, ils se sont déjà comment préparés à l'affrontement depuis 43 ans. Donc, c'est le désappointement pour Donald Trump. Mais il faut dire que aussi, mais les autres en face, ceux qui ne cessent de le critiquer, qu'est-ce qu'ils ont à proposer?
Alors justement, ce Richard Haddad faisait tout à l'heure allusion à l'accord de 2016. Alors justement, est-ce que justement, au contraire, les démocrates, on l'a vu, eux par contre, ce qu'ils proposent, c'est carrément un retrait, puisqu'on a vu que notamment à la Chambre des représentants, ils avaient fait voter une résolution avec l'appoint de quelques républicains sur le retrait également américain du Golfe. Alors il faut rappeler que dans la Constitution américaine, déjà, il faut que ce soit voté par l'ensemble du Congrès, ce qui n'est pas le cas, première chose, et que si ça a été voté, il y a quand même le veto suspensif du président américain dans la construction américaine. Mais selon vous, justement, Richard Haddad, est-ce que Trump, justement, vous l'avez dit, hein, qu'il y avait des raisons en quelque sorte circonstancielles, il n'est pas limité dans son action par rapport à l'Iran?
Il est limité par lui-même, Donald Trump, parce que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que je pense que les Iraniens, il faut faire la différence entre le régime iranien actuel et les Iraniens de manière générale. L'Arabie Saoudite, c'est un peuple intelligent, ce qui est très vrai, très cultivé, très formé. L'Iran, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pas des marchands de chèvres, loin de là. Mais enfin, le régime, c'est un régime régressif, c'est-à-dire que l'islamisme fait régresser une civilisation. Et moi, je récuse cette idée que l'Iran actuel, dirigé par des islamistes, est une grande civilisation. La grande civilisation perse, elle se tait, elle est matée par ce régime. Beaucoup sont partis vivre aux États-Unis, en France ou ailleurs. Et ceux qui dirigent le régime ne sont pas des lumières, hein, pardonnez-moi l'expression. D'ailleurs, ils se sont tellement bien préparés qu'ils ont perdu une vingtaine de dirigeants et pas les moindres dès le premier jour. Donc c'est bon. Alors, relativisons un peu la puissance. En fait, c'est pas l'Iran. Le régime islamiste qui est puissant, c'est juste qu'il profite de la faiblesse des Américains, qui ne sont pas faibles, mais de la faiblesse de Donald Trump, qui ne veut pas faire certains... C'est lui qui s'auto-limite, parce qu'il a des vétos qu'il s'impose à lui-même. Par exemple, j'ai fait allusion au blocus qu'il avait instauré qu'il aurait dû faire dès le 28 février. Hein. Il a mis quand même 2 mois à le faire, alors que c'était le plus efficace, beaucoup plus efficace que les bombardements.
Certainement. Ouais.
Après, vous savez, on a vu aujourd'hui la Russie souffrir des bombardements ukrainiens sur leur raffinerie de pétrole. Vous savez que Donald Trump aurait pu ordonner à son armée de bombarder les raffineries de pétrole iraniennes. Et là, je peux vous dire que le régime n'aurait pas tenu trop longtemps. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne veut pas le faire. Il ne veut pas bombarder le principal port duquel sort le pétrole iranien. Il l'a bloqué par son armada, mais il n'a pas voulu le bombarder. Vous savez, vous bombardez les 3 quais du port duquel sort 90% du pétrole iranien, ils peuvent le faire en une journée, et c'est fini, terminé. Vous bombardez les raffineries de pétrole et c'est terminé. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils pensent que c'est pas bien pour l'économie mondiale, c'est pas bien pour son cours de bourse, parce qu'il est, je suis d'accord avec vous, c'est un homme d'affaires, il est obsédé par le cours du Brent, du Dow Jones, etc. Et voilà. Et il ne comprend pas que parfois, on peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Si les Américains bombardent ces raffineries et ce port, évidemment le pétrole va grimper, l'économie mondiale va en souffrir quelque temps, mais la grande question c'est, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle souffre aujourd'hui quelque temps, tout ça se remet en place petit à petit après, une victoire rapide et claire, plutôt que de rentrer dans un conflit qui dure des années et des années, et c'est pas pour autant que le pétrole ne va pas augmenter. Voilà la question. Alors, le problème, vous l'avez bien dit, c'est qu'il envoie pour négocier ses gendres, son beau-père, je ne sais qui, des promoteurs immobiliers, enfin, il envoie des promoteurs immobiliers discuter avec des islamistes iraniens. Enfin, et puis il est pressé, et puis un jour il vous dit noir, un autre jour il vous dit blanc, il change d'avis toutes les 2 secondes. Malheureusement, c'est. Alors vous voyez, il est déçu, alors il rebombarde. Enfin, on voit bien que. Vous avez raison, il n'a pas compris, non pas ce que c'est la civilisation perse, c'est encore plus pire, c'est qu'il n'a même pas compris ce que c'est un régime islamiste, vous voyez.
Pascal Masse.
Oui, alors l'île de Kharg, puisque c'est de ça dont vous parliez tout à l'heure, qui est le grand centre de déchargement du pétrole, a été attaquée. Mais ce sont les installations secondaires qui étaient bien en deçà des quais de déchargement. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque qui date de plusieurs semaines quand même.
Oui, mais limitée.
C'est ça.
C'est volontaire. Voilà.
C'est-à-dire c'est un signal, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Parce que comme vous l'avez dit très justement, si les États-Unis avaient voulu complètement interdire toute forme d'exportation du pétrole, ils ravageaient l'île de Kharg avec quelques missiles et c'était fini.
Et vous savez, je vais vous dire, en fait, il espère faire un accord à la vénézuélienne avec l'Iran. C'est-à-dire qu'ils disent, je ne vais pas leur détruire le pétrole, parce que si je me mets d'accord avec eux, je vais le... vous vous souvenez, il avait dit, on va faire des affaires ensemble. Oui. En fait, il espère avoir des contrats en Iran et de pouvoir extraire le pétrole iranien et le vendre, voilà. Mais il rêve. Voilà, donc
bien sûr, parce que le pétrole, c'est la rente du régime iranien. Il faut savoir qu'en Iran, je crois que 30 ou 40% de l'essence à la pompe, c'est de l'essence importée. Oui, pour vous dire à quel point c'est une économie.
Il y a des pénuries d'essence depuis toujours en Iran.
Ils exportent aussi vite que possible parce qu'ils sont en flux tendu. Ils sont obligés le jour, surtout actuellement, de payer les passes d'Aran, les passes d'Ijlis, et vivre ça, donc payer tout ça, donc c'est la rente. Et en effet, comme vous l'avez très bien dit, Richard Haddad, si vous coupez le robinet du pétrole, le régime, vous l'asséchez, et à mon avis, ça coûte beaucoup moins cher, et c'est plus efficace en termes d'image, et également vis-à-vis de la population iranienne, que les bombardements. En effet, le bombardement, on peut bombarder les passes d'Aran, certains sites, etc., mais il n'y a pas besoin de bombarder notamment les villes, c'est-à-dire que si on a vu l'embargo depuis très longtemps, sur le pétrole, eh bien on aurait serré la vis, on aurait asséché le régime iranien. Souvenez-vous, le Liban, comment on a fait pour assécher le régime syrien ? Eh bien en 2005, on leur a dit de quitter le Liban. Et quand ils ont quitté le Liban, il leur a manqué, vous savez mieux que moi, Richard Haddad, 5 milliards de dollars dans la poche du clan Assad.
Qu'ils volaient, bien sûr, c'est une plateforme de vol.
La totalité des taxes portuaires et aux portuaires, 20% sur le marché, le casino du Liban, tout ça, ils se le mettaient dans la poche.
L'Union soviétique, François, l'Union soviétique, une des causes, évidemment, il n'y a pas qu'une seule cause, une des causes de sa chute, c'était la chute du prix du pétrole.
Bien sûr.
Qui a précédé
et du gaz en même temps.
Et du gaz. Ouais. En fait, ils vivaient de ses rentes. Et dès
comme
que les prix se sont effondrés,
Les années phases de Poutine, 2000-2010, ça a été la hausse du prix du pétrole et du gaz qui a permis à la Russie, notamment, de rembourser totalement sa dette, inversement. Donc on sait très bien que là, à l'Iran, il y a un problème de rente, justement, essentiel, et ça, les États-Unis n'ont pas compris, parce que visiblement, est-ce qu'il n'y a pas également une volonté de maintenir l'Iran tel qu'il est, avec une peur du chaos régional et de dislocation de l'Iran, Pascal
Massi ? Il y a bien sûr les voisins qui tremblent à l'idée que l'Iran redevienne une puissance régionale, parce que ma référence c'est 1979, hein, pardonnez-moi, je remonte à une
époque... notre référence à tous. Hein.
Bon,
je m'en souviens, j'étais en 4e, je n'étais pas si âgé que ça,
voilà.
mais ça passe très vite, je me souviens notamment des mois et de la chute de...
Voilà. Bon,
je vous verrai après quelque chose.
L'Iran de Mohamed Reza Shah, c'était la 9e puissance mondiale économique, c'était le pays le plus moderne de toute la région. Les autres, c'était que des tas de sable. Alors eux, par contre, c'était des gardiens de chèvres et de chameaux, avec du pétrole, l'Arabie Saoudite, Koweït et compagnie. Et ils savent très bien que si l'Iran redevient une puissance tutélaire dans la région et attractive, eux, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'à Dubaï, personne n'ira à Dubaï si l'Iran devient un pays normal, bien géré, avec une économie stable et prospère. Ils savent très bien qu'eux, ils dépendent exclusivement, y compris pour l'eau. Si les Iraniens frappent les usines de dessalage, ils n'ont même pas d'eau. Donc, ce sont eux qui ont peur. C'est pour ça qu'ils essayent de faire des mamours aux États-Unis, d'offrir un avion par-ci, par-là, parce qu'ils ont affreusement peur que l'Iran devienne la vraie puissance tutélaire de toute la région.
En attendant, les Qataris sont quand même ceux qui sont le plus proches de l'Iran et ils ont envoyé une délégation à Téhéran. Richard, là, vous y achetez.
Ils jouent sur tous les tableaux, oui. Concernant 1979, ce que j'ai entendu pendant des mois, tous les commentateurs dire mais on ne peut pas faire tomber un régime comme ça et tout, les Américains ne peuvent pas, il n'y a aucun régime qui n'est jamais tombé par une puissance grâce ou à cause d'une puissance étrangère. Je rappelle juste que, alors on a donné l'exemple de la Serbie, Milosevic qui est tombé à cause de l'intervention de l'OTAN, etc. Mais moi, en fait, il y a un exemple encore plus proche, c'est que l'Iran, lui-même, en 1979, qui a fait tomber le Shah d'Iran,
les Américains. Les États-Unis.
Et donc, comme Carter, ils l'ont fait tomber en 1979, ils peuvent, s'ils ont fait tomber le Shah d'Iran en 1979, ils peuvent bien faire tomber le régime islamiste aujourd'hui. Alors, pas par cette méthode peut-être, mais en tout cas, en 1979, les opposants au Shah étaient moins nombreux et moins virulents que les opposants au régime islamiste d'aujourd'hui. Et le Shah n'a pas tué 150 000 personnes. Hein. D'ailleurs, il n'a fait tuer personne parce qu'il avait donné un ordre. Son armée lui avait dit en 1979, donnez-nous l'ordre, en 48 heures c'est réglé. Il a refusé, il a repris la même phrase de Nicolas II, tsar de Russie et Louis XVI, absolument. Je ne veux pas faire couler le sang de mon peuple. Permettez-moi de dire que c'est une phrase bête, parce que pour ne pas faire couler le sang de 200 manifestants, on fait couler le sang de, 100, de millions de gens après. Mais bon, et c'est ce qu'il avait dit. Il a refusé qu'on tire sur son peuple, contrairement au régime actuel. Mais ça n'a pas empêché les Américains de le faire tomber.
Pascal Mas, je vous ai ajouté.
Moi, je n'ai que à acquiescer à ce qui vient d'être dit, parce que bon, je dirais toutefois que le Shah d'Iran n'était pas le dictateur sanguinaire qui a été présenté par les Occidentaux, notamment par la presse pourrie déjà de l'époque. C'est-à-dire que ça s'est pas rangé. Le Monde, Libération, et etc.
Et le service public et Madame Christine O'Krent qui était allée interroger l'ancien ministre du Shah, Godzabé, dans sa prison en le narguant et en disant que finalement ce qui lui arrivait était
Kouchner était proche du.
Voilà. Et ça figure même il faut quand même le rappeler que ces gens-là étaient allés à narguer un ancien ministre du Shah dans le couloir de la mort.
Oui.
Voilà. Bon, toute cette bande-là, c'était déjà déconsidéré à l'époque, elle ne s'est pas rattrapée par la suite. Donc le Shah était, bon, c'est pas lui qui dirigeait d'ailleurs, hein, c'était le Premier ministre, et le Premier ministre était dans la main de l'Aramco et de la British Petroleum. Donc c'était ceux-là, les commanditaires. Et c'est Reza Pahlavi qui a porté le chapeau, comme Louis XVI d'ailleurs.
Oui, mais dans tous les cas, quel que soit le premier ministre et ce qu'il faisait, ça n'arrangeait pas les Américains parce qu'ils en voulaient un peu plus. En réalité, c'est ça. Hein. Il y avait la politique iranienne ne leur convenait plus. Ils pensaient mettre un pantin à leur place et le manipuler. Ça s'est retourné contre eux, comme souvent ça arrive. Mais rappelons juste que 2 ans avant sa chute, le Shah d'Iran avait poussé la modernisation de l'Iran à tel point, je veux dire politique, hein, à tel point qu'il avait autorisé, il avait rendu le citoyen iranien, il avait établi une égalité entre les citoyens iraniens, ce qui n'a jamais existé dans aucun pays musulman, c'est-à-dire que tout citoyen iranien, quelle que soit sa religion, avait tous les droits. Il avait le droit d'accéder au plus haut poste de l'État.
Il y avait des chrétiens, des arméniens, oui, des juifs, des zoroastriens, etc.
Exactement. À partir de 1977, par une loi, il avait fait adopter cette réforme qui faisait que n'importe quel iranien, quelle que soit sa religion, juive, parce qu'il y avait beaucoup de juifs en Iran, chrétiens, des arméniens notamment au nord, il y a des sunnites en Iran, on l'oublie beaucoup.
Oui, des arabes sunnites.
Je parle même pas des ethnies, je parle des religions. Tout iranien pouvait accéder aux postes les plus élevés dans l'armée et dans le gouvernement, ça n'existe dans aucun pays musulman et encore moins dans les pays pseudo-laïques. Qu'on a connu la Syrie, l'Irak de Saddam Hussein, enfin l'Égypte, etc. Tous ces pays arabes, nationalistes arabes, pseudo-laïques, je peux vous dire, ils sont laïques, mais dans la Constitution, il est toujours précisé que le président doit être.
Dans un pays musulman, en quelque sorte, ça veut dire que le pouvoir temporel commande le pouvoir spirituel,
oui.
Mais ils sont liés à l'autre. Je rappelle que la Turquie, qui est soi-disant laïque, il y a le Diyanet, le ministère des biens religieux, qui est en fait soumis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans le pays laïque, eh bien, c'est que le pouvoir temporel contrôle totalement le pouvoir spirituel, mais qui s'en inspire, qui s'en revendique, et que dans ces pays-là, la religion demeure religion d'État.
La laïcité française
est une exception.
Oui, dans la Syrie d'Assad, le poste de président, qui est un dictateur, il y a une constitution quand même, avec le poste de président de la République arabe syrienne était réservé à un musulman. Alors Assad était à la huit de mère sunnite.
Ça avait été un moment, Hafez al-Assad avait envisagé de le faire disparaître. En 1973, il avait eu des manifestations monstres, justement, notamment des oulémas, des sunnites. Et à partir de là, non seulement il avait rétabli, mais il avait changé de pied. Il était avec les musulmans et ça avait également une influence dans sa politique au Liban. Justement.
Bien sûr, parce qu'ils sont obligés de maintenir ça, parce qu'ils savent parfaitement, toute dictature qu'ils étaient, ils savaient parfaitement que pour maintenir cette dictature, il fallait donner un peu de quelque chose à la majorité sunnite, vous voyez, par exemple en Syrie, de même Saddam Hussein en Égypte, vous savez, l'Égypte nassérienne par exemple, c'était de même. Hein. Alors Nasser, on n'arrête pas de dire Nasser était contre le voile islamique, bon, très bien, mais ça n'empêche pas que la situation des Coptes en Égypte sous la Nasser n'était pas fabuleuse.
Ne jamais oublier ces mots de Béchir Gemayel, jeune, qui a 23 ans, 1970, va rencontrer Nasser au Caire. Il en sort bouleversé et il comprend les choses puisque Nasser lui dit, quelques mois avant sa mort, « Je me suis trompé, ce n'est pas l'arabité ou le nationalisme arabe qui va unir les Arabes, c'est l'islam. »
Oui.
C'est une phrase...
Il avait 20 ans d'avance, alors.
Voilà. Et Béchir Gemayel a bien compris, en effet, que le nationalisme arabe était, en tout cas, un islamisme qui changeait, quelque sorte, de vêtements, mais pas de fond, pas de corps, absolument, en quelque sorte, et que ça allait être un défi pour eux également.
Oui, en fait, vous savez que le nationalisme est interdit dans l'islam parce que la seule... nation autorisée, c'est la nation islamique, la Umma Islamia. Donc, on ne peut pas être. En fait, les pays dans le monde musulman ne sont que des régions de la nation islamique. Et Michel Aflaq, je le répète, j'ai dû le dire à ce micro 50 000 fois, Michel Aflaq, le fondateur du Parti Basse, s'est converti.
Chrétien
orthodoxe.
Orthodoxe.
S'est converti à l'islam avant ça.
À Paris, en plus.
Oui, en précisant qu'il l'a fait parce qu'il considérait qu'on ne pouvait pas être un nationaliste arabe sans être musulman.
Exactement. Pascal Mas.
Rien à rajouter.
C'est sûr.
C'est sûr.
Bon, alors, nous allons à un dossier peut-être qui est un peu plus. Alors là, nous allons aborder. Mais je voudrais quand même, chers amis, que nous passions une annonce que je vous demande d'écouter bien attentivement.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
J'insiste, chers amis, Radio Courtoisie a besoin de vous, en effet, de vos aides. Les choses ne sont pas faciles, les dons, vous savez, sont plus tenus actuellement. Donc, si vous nous avez le plaisir d'écouter Courtoisie, vous savez, eh bien, ça a un prix, la liberté a un prix. On ne passe ni par la publicité, ni par l'argent public. Nous ne sommes ici ni l'humanité, ni le secteur public, ni Libération, ni autre. Donc, chers amis auditeurs, je vous encourage encore une fois, il n'y a pas de petits dons, mais à donner de façon massive et régulière à Radio Courtoisie, pour que Radio Courtoisie puisse continuer son merveilleuse œuvre. C'est une radio qui se développe en qualité, en quantité, sur le fond, sur la forme. On peut s'en apercevoir. Donc, merci pour votre soutien. Alors, je voudrais qu'on vienne également sur un autre dossier qui est lié à celui de l'Iran et des États-Unis. Ce sont les négociations directes entre le Liban et Israël. Alors, on nous dit que ce sont les premières négociations, n'oubliez pas, je relisais d'ailleurs un livre sur le Liban, Xavier Baron d'ailleurs, que je trouve assez bien fait, assez objectif, et en fait, il y a eu le Liban et Israël ont signé des accords, la Convention d'Armistice de 1949, Richard Haddad, vous connaissez bien, vous avez écrit trois livres sur le Liban, en fait, reconnaissait explicitement le Liban et Israël, ensuite l'accord du 17 mai 1983, et mon ami Michel Fayad m'a confirmé que l'accord est toujours en vigueur, parce que c'est Amir Gemayel qui a renoncé à l'appliquer, mais il aurait fallu que le Parlement libanais l'abroge. Or, le Parlement libanais ne l'a jamais abrogé, en quelque sorte. Donc, l'accord du 17 mai 1983 n'est pas caduque. Et là, cette fois-ci, on a vraiment des négociations, où il y a quand même, de façon spectaculaire, les drapeaux israéliens et libanais côte à côte, sachant qu'on revient loin, puisque moi, je vous souviens, quand j'enseignais au Liban, je regardais les manuels scolaires, y compris dans les écoles chrétiennes, où il y avait quand même des dizaines de pages consacrées à la lutte contre l'ennemi israélien, où on avait véritablement farci la tête des enfants libanais depuis 1990. Et là, pour une fois, il y a quand même un choc dans les esprits, c'est que les peuples sont proches et sont à la même table. Les délégations se côtoient dans une bonne atmosphère. Visiblement, le courant passe très bien entre les deux. Donc finalement, l'accord entre le Liban et Israël, quoi qu'il arrive, de toute façon, il est dans les esprits.
Oui, alors, deux choses. Vous avez bien fait de préciser que quand vous avez enseigné, c'était après 1990.
À partir de la mainmise syrienne,
voilà,
sur le pays.
Exactement, parce qu'avant, moi j'ai connu l'éducation nationale chez les chrétiens avant 1990, c'était pas le cas du tout. Il faut dire que à la fin de ce qu'on a appelé la fin de la guerre civile,
on a unifié les manuels scolaires.
Exactement.
En 90,
en fait, avec la mainmise de la Syrie sur le Liban à partir de 1990, il y a une sorte de bourrage des crânes. Il fallait vraiment instaurer sur la totalité du territoire libanais, que ça soit les chrétiens ou les autres, une sorte de propagande anti-israélienne, etc. Et vous savez, ça a duré longtemps, ça a duré 20 ans. Et ce qui fait qu'en 20 ans, vous formez une génération de bourrage de crâne, etc. Alors ça, c'était pas qu'à l'école, c'était dans les médias, dans les milieux artistiques, et puis on a même modifié la Constitution.
Une anecdote, j'étais une fois, après mes cours, je me rendais souvent au Virgin à Beyrouth, c'est très agréable, il y a une terrasse où vous voyez la mer, même en hiver, il fait bon, et vous voyez la montagne. J'ai vu des trois camions de l'armée débarquer et j'ai appris ensuite qu'ils venaient saisir les DVD des 10 commandements. Oui. De Ben-Hur et de Rabbi Jacob.
Oui, je me souviens de ça.
Pour vous dire,
c'était la caricature atteignée des stades. Bon. Et en fait, ils ont fait pire que ça. Parce qu'il y a eu une réforme en 1990, lorsque la guerre se termine par la victoire de la Syrie. Donc c'était le régime syrien qui avait mis la main sur le Liban. Et ils ont réformé la constitution libanaise. Donc on a retenu qu'on a affaibli le poste du président de la République qui était chrétien, on a renforcé plutôt le premier ministre sunnite, etc. On a fait du parlement un parlement à nombre pair, avec moitié de chrétiens, moitié de musulmans, alors qu'auparavant il y avait 55 chrétiens contre 44 musulmans.
Qui avait permis d'ailleurs au Liban d'être indépendant, parce que si on avait eu la parité en 1943-46, alors ça peut sembler inéquitable, mais s'il y a eu cette différence, c'est parce qu'on a eu une souveraineté libanaise, même si c'était une souveraineté limitée.
C'est vrai,
nous en sommes d'accord.
Mais on a retenu que ça. Or, on avait dans cette constitution, ils ont ajouté que Israël, enfin c'est du jamais vu ça, pourquoi on parle d'un autre pays dans une constitution? Ils ont ajouté dans la constitution, parce que c'est la Syrie qui l'a imposé, que Israël est l'ennemi éternel. D'abord, le terme de ennemi éternel semble complètement. Je sais pas d'où ça sort.
L'Algérie fait ça très bien vis-à-vis de la France.
Non, on l'avait sorti de la bouche. Même l'Algérie l'a mis dans son hymne, mais ne l'a même pas mis quand même dans sa constitution.
Oui, mais l'Algérie, la Syrie, c'est pas très. C'est un peu la même pensée, tout ça. Et donc, on a mis dans la tête des Libanais, quelle que soit leur identité, parce que j'aime bien ce terme identité, parce que j'en ai assez qu'on me parle de confession au Liban. Vous savez, vous pouvez être maronite ou de n'importe quelle confession. Vous pouvez être athée, ne jamais mettre les pieds dans une église ou dans une mosquée, vous appartenez quand même à cette... Parce que ce n'est pas que de la religion, c'est une identité. Et donc je reviens à mon sujet, on leur a bourré le crâne en leur disant que... si bien que les gens, il y a une sorte de peur et de... Moi je me souviens, j'ai allé au Liban de temps en temps et les gens, s'ils voulaient dire ce qu'ils pensaient d'Israël, ils devaient le chuchoter en se méfiant de que si quelqu'un les entende, qu'ils ne finissent pas en prison, parce que vous finissez en prison pour pas grand chose, hein, pour pas grand chose. Et donc, parce que c'est dans la constitution, c'est l'ennemi éternel,
etc. Ce qui n'empêchait pas les Syriens de négocier avec Israël les accords du Liban Rouge, ce qui n'a jamais empêché les Syriens de façon opaque.
Ah oui, mais eux, ils ont tous les droits. Oui, il y a des généraux, Israël, absolument. Hein. En tout cas, juste un mot pour sur le traité de 1983. Alors, le Parlement ne l'a pas abrogé, c'est vrai, mais ce n'est pas le sujet. C'est que pour qu'il soit, il n'est pas, en fait, c'est pas tout à fait exact, il n'est pas en vigueur parce qu'il fallait qu'il soit ratifié par le président de la République. Si on prend la constitution de l'époque, et Amin Gemayel ne l'avait pas ratifié sous pression, parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque, au moment où il allait le ratifier, la Syrie avait lancé une guerre en 1983-84, c'était à cheval. Hyper violente, où vraiment, en fait, il a renoncé.
Avec notamment Berry, Jumblat.
Absolument. L'armée s'était coupée en deux, on l'oublie, hein. Donc l'armée s'était coupée en deux. Alors Amin Gemayel avait eu l'intelligence, quand il a été élu en 1983, de restructurer l'armée en faisant des brigades totalement chrétiennes, quand je dis totalement, à 95%, et d'autres musulmanes, chiites ou sunnites, si bien que, parce qu'il avait... prévu que ça pourrait arriver, si bien qu'elle n'a pas implosé l'armée comme en 1975, elle s'est coupée en deux. Et donc, elle s'est coupée en deux, tout était fichu, donc il a dû renoncer à ça. Et donc, comme il ne l'a pas ratifié, il n'existe plus le traité. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu les 15 ou 17 points, je ne me souviens plus, je les ai lus en détail, de ce qui a été signé à Washington entre le Liban et Israël. C'est très intéressant, parce que moi, je m'attendais à un traité... à minima, c'est-à-dire qui
tracé de frontières,
voilà, exactement, que non-agression, etc. En fait, pas du tout.
Qui existait déjà. Il faut dire qu'il y a eu 3 ans, on a la frontière maritime qui pose problème parce que en fait, vous avez une côte inclinée, donc il faut en effet déterminer. Alors là, il faut faire de la géométrie, en quelque sorte, de la trigonométrie même. Et on a quand même le Liban et Israël ont passé un accord, ont reconnu la frontière maritime pour direction d'exploitation du gaz. Et alors, il y a une négociation indirect, mais on sait qu'elles ont été quasi directement, mais avec l'accord du Hezbollah.
Mais oui, parce que le Hezbollah voulait mettre la main
sur le Hezbollah qui voulait mettre la main dans le consortium gazier.
Exactement.
Parce que pour être chiite, je rappelle que l'islam n'a jamais prohibé les affaires, et encore moins le chiisme notamment. Le Hezbollah voulait avoir des parts dans le consortium gazier, donc était intéressé d'ailleurs à une reconnaissance frontière qui est plutôt avantageuse d'ailleurs pour le Liban, hein, d'après ce qu'on sait,
etc. Et le Hezbollah, donc, là, ça, du coup, ça ne le gênait pas.
Et le Hezbollah, comme par hasard, il a même encouragé Il aurait pu mettre un veto de négociation parce que là, il était en position de force.
Bien sûr, le gouvernement libanais ne peut rien faire sans que le Hezbollah le valide.
Et le Hezbollah a encouragé déjà, donc on peut considérer que l'accord sur la frontière maritime était déjà une reconnaissance.
Absolument, absolument. Et donc là, c'est très intéressant parce que dans cet accord, il est prévu que les deux pays aient des relations diplomatiques, une ouverture des frontières, en fait une normalisation totale des relations entre les deux pays. Donc on ne peut pas faire plus complet que ça. Alors
il est dit qu'il n'y a pas de contentieux entre les deux pays.
Absolument.
Même la question des Palestiniens réfugiés au Liban, qui aurait pu être un contentieux, on se rappelle qu'il y a toute une partie, notamment de la classe politique libanaise qui craint
que les Palestiniens ne soient pas repris en Israël et qu'ils soient obligés de les naturaliser. Mais en réalité, moi j'ai entendu, les critiques que j'ai entendues sont parfois, je me demande comment les gens raisonnent, j'ai entendu des journalistes libanais dire « ouais, cet accord il est plutôt favorable à Israël parce qu'il est prévu dans cet accord que le Liban ne poursuive pas Israël pour crime de guerre ». Enfin, si vous voulez faire la paix avec quelqu'un et vous voulez lui dire « bon, tu me laisses quand même te poursuivre pour crime de guerre », bah, ça s'appelle plus un traité de paix. Hein. Bon. Et donc, en réalité, ce qui est intéressant dans cet accord, c'est que Israël, et ça c'est très important, parce que les Libanais font toujours la victime, ils disent, enfin pas tous, hein, mais ceux qui critiquent cet accord, ils disent mais c'est en faveur d'Israël. Enfin, je rappelle que dans cet accord, Israël reconnaît qu'il n'a aucune revendication territoriale sur le Liban. Donc, ce qui n'est pas rien, parce qu'on l'accuse de ça depuis.
Contrairement à ce qu'on raconte.
Absolument. Il dit on n'a aucune revendication territoriale. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas amené à rester là-dedans. C'est une sorte d'engagement de sortir, puisqu'il n'a aucune revendication territoriale. Et en contrepartie, le Liban reconnaît l'État d'Israël. Bon, déjà, les bases sont bonnes. Donc, chacun reconnaît la souveraineté de l'autre sur les frontières reconnues par l'ONU. C'est déjà une bonne base. Et donc, et comme ça, aucun des deux. Et, sauf que, en fait, le seul bémol dans cet accord, c'est que tout ce que demande Israël, et le Liban l'accepte volontiers, mais encore faut-il l'appliquer, c'est de demander au gouvernement libanais, ce qui est un minimum, d'avoir le monopole des armes chez lui, sachant que s'il a le monopole des armes chez lui, il n'attaquera pas Israël, ce qu'il n'a jamais fait. Et donc, c'est tout ce qu'on lui demande.
Même en 1949, hein, l'armée était restée à la frontière. C'était le colonel Fouad Chab qui était colonel qui était commandé l'armée. Et contrairement au premier ministre, d'ailleurs, Riyad al-Sol, musulman, qui lui voulait une offensive en tant que sunnite pour appuyer les Palestiniens, eh bien non, l'armée est restée juste à la frontière.
Elle était dirigée par
quelques
chrétiens,
escarmouches sur des villages, sur un ou deux villages, c'est tout. Voilà.
Et donc, tout ça, c'est très bien. Encore faut-il appliquer cet accord, pas du côté israélien, parce que les Israéliens, si le gouvernement libanais a le monopole des armes et désarme toutes les milices, qu'elles soient palestiniennes ou Hezbollah, qui envoient des roquettes ou des missiles sur Israël, le sujet est clos. Le problème, c'est comment le gouvernement libanais va-t-il faire pour désarmer le Hezbollah et pour l'empêcher donc d'envoyer des missiles sur Israël. C'est tout le nœud du problème. Moi, je ne sais pas comment cet accord va être appliqué.
Alors, je vais venir aussi, hein, je précise la même chose, c'est que contrairement à certains qui parlent d'annexion, les Israéliens ont mis quand même, après 67, des colons à Gaza, en Cisjordanie, dans le Golan et dans le Sinaï égyptien.
Absolument.
Ils n'en ont jamais mis un seul au Liban.
Exactement, c'est très intéressant ce que vous dites.
Ce que personne ne raconte.
Exactement,
etc.
Personne ne le fait remarquer.
Alors qu'en plus, si vous regardez, il y a quand même au Liban sud, il y a Cana, il y a des villes de la Bible, notamment où il y avait un peuplement juif, et même ce qu'on appelle un peu les fanatiques du Eretz Israël, du Grand Israël, et les bibliques, notamment le parti de la Torah, l'unifié de la Torah, ces gens-là auraient pu justement dire que le sud-Liban était une terre à eux.
Ils le disent d'ailleurs, mais ils sont minoritaires.
Mais ça n'a jamais été accompli. Aucun gouvernement israélien n'a placé un seul colon, c'est quand même un signe. Ça, il croyait qu'on le dire.
Absolument.
Il n'y a jamais eu, entre 1978 et 2000, en 22 ans, il n'y a pas eu colons. Il y a eu l'armée du Liban Sud, mais il faut quand même rappeler que quand on a attrapé 1500 miliciens du Liban Sud, il y avait 300 chrétiens, 200 druses et un millier de chiites.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Seul le commandant en chef, Saad Haddad et ensuite Antoine Lahad, étaient chrétiens, mais que les trois quarts, les deux tiers des miliciens de LS étaient des chiites, tout le monde.
Et pour cause, parce que les chiites étaient les victimes
des Palestiniens
dans le sud. Ils en avaient assez de l'OLP et des groupuscules palestiniens ils étaient pro-israéliens parce qu'ils en avaient marre des Palestiniens. Alors c'est pour ça que quand le Hezbollah se fait passer pour le défenseur des Palestiniens ou les Iraniens, ça me fait un peu rigoler.
On
en fait, ils n'ont que du mépris
des
pour
armes
les
du Hezbollah, mais je voudrais que Pascal Mass nous donne son avis sur cet accord, justement, ce qu'il signifie, cet accord Liban-Israël.
C'est déjà le fait que les uns et les autres se reconnaissent, c'est déjà un grand progrès. Bon, après, bon, tous les aspects secondaires, la mise en place et tout ça de cet accord, ça va demander encore beaucoup de temps, malheureusement, parce que, comme vous l'avez souligné tous les deux, l'État libanais n'est pas complètement maître de toutes les armes qui circulent là-bas et de leur utilisation, mais le fait que déjà sur le papier les deux États se reconnaissent avec les frontières et que qui s'interdisent d'intervenir chez l'un ou l'autre, je trouve que ça c'est un gros progrès et ça n'a pas été suffisamment mis en exergue.
Oui, c'est vrai. Alors justement, maintenant, on va parler de la question la plus sensible, la réalité de l'accord. Vous l'avez bien dit, Richard Haddad, hein. Sans désarmement du Hezbollah, il n'y a pas d'accord, puisque les conflits ne sont pas des conflits entre le Liban et Israël, mais entre Israël et le Hezbollah. Oui. Plutôt le Hezbollah qui attaque Israël. Le conflit est là. Alors Emmanuel Macron nous raconte, par exemple, que l'armée libanaise va désarmer le Hezbollah. Moi, personnellement, je n'y crois pas pour plusieurs raisons.
D'abord,
il faut écouter le commandant-chef de l'armée libanaise, Rodolphe Elkal, qui a dit deux choses. Il a dit que, un, ce serait un bain de sang, et deux, que l'armée libanaise se scindrait. Et moi,
c'est plutôt la deuxième chose qui est vraie.
Qui scindrait, qui serait pas faux.
Ce serait pas un gros bain de sang.
Qui serait pas faux, puisqu'il y a quand même, il faut quand même savoir que l'armée libanaise est notamment enquistée par le Hezbollah à tous les niveaux. C'est-à-dire déjà, il y a. Alors il faut savoir que les chiites ne sont pas la première composante de l'armée, contrairement à ce qu'on pense. Ce sont les sunnites. Mais quand on prend les hommes du rang, soldats et brigues et caporaux-chefs, les sous-officiers, les officiers, vous prenez la totalité, la première communauté, ce sont les sunnites.
Alors je vais vous dire, parce que j'ai étudié le sujet, les officiers c'est des quotas, donc les officiers c'est comme tout le pays.
Il y a une parité à peu près.
Il y a une parité à peu près,
avec le commandant en chef maronite, voilà.
C'est absolument, le commandant en chef de l'armée est obligatoirement maronite.
Et le chef d'état-major druze.
Druze, exactement, et après c'est une parité, donc un tiers de chiites. Après, chez le soldat du rang, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, avouons-le, c'est quelqu'un qui est sous-payé, et en général, on lui donne à manger, il accepte les ordres. C'est pas eux qui... En général, à chaque fois que l'armée s'est scindée en deux, c'est arrivé déjà trois fois.
C'est les officiers.
C'est les officiers, bien évidemment, et les officiers supérieurs, pas n'importe quel officier. Et donc, le soldat du rang, vous avez parfaitement raison, il y a plus de sunnites que de chiites.
Parce qu'ils recrutent dans le Hakkar, qui est la religion la plus
exactement,
pauvre.
Exactement.
Et comme toujours dans l'armée, c'est en quelque sorte un...
C'est l'endroit le plus pauvre, il recrute chez les plus pauvres.
Au plan social, c'est une façon de s'en sortir au plan social.
Absolument.
Et c'est le Hakkar qui est la région la plus pauvre.
Mais ce n'est pas ça le sujet, parce que c'est pas le soldat du rang qui... Le problème, c'est que c'est une armée qui est globalement un tiers chiite, ne serait-ce que les officiers. Et donc, ils sont totalement affiliés au Hezbollah. C'est chiites de l'armée. Et donc, à partir de là, ils sont payés, enfin, les officiers sont payés, ils travaillent pour le Hezbollah, etc. Et donc, le problème, ce n'est pas que l'armée libanaise ne peut pas désarmer le Hezbollah. Rappelons que la force Red One, c'est même pas 3000 hommes. L'armée libanaise, c'est 85 000 hommes. Et donc, on dit, elle est moins équipée
quand même.
Oui,
quand même.
L'équipement du Hezbollah, vous savez, ce n'est plus ce que c'était. Hein, parce qu'il a été détruit en grande partie par Israël. Les frontières avec la Syrie ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc, il ne reçoit plus d'armes. Donc, il faut relativiser. Le Hezbollah, aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il était. C'est 3000 combattants aguerris, et encore, parce que beaucoup sont morts. Et puis quelques réservistes, c'est pas grand chose. Le problème, ce n'est pas le Hezbollah, c'est l'armée. Si on lui donne l'ordre de désarmer le Hezbollah par la force, elle se divisera en deux, comme elle a toujours été divisée en deux dès qu'il y a eu une décision avec laquelle une partie des musulmans n'est pas d'accord. Ce qui m'amène à ma conclusion, parce qu'on parle d'État libanais. Moi, je récuse le terme État libanais. Il n'y a pas d'État libanais. Il y a un semblant d'État libanais. Il y a un journaliste libanais dans les années 50 qui avait dit « Le Liban, c'est une association d'intérêts fondée sur un compromis permanent. » Vous voyez ? J'aime beaucoup cette phrase. Parce que c'est ça, l'État libanais. En fait, c'est des identités, c'est des nations... C'est pour ça, d'où le sous-titre de mon livre, « Deux peuples ne font pas une nation ».
On parlait de nation maronite.
Nation maronite qui a assimilé les autres nations chrétiennes, grecques, catholiques, etc., arméniennes. Et puis il y a une identité, les chiites sont devenus une identité, et puis il y a les sunnites qui se revendiquent de l'identité arabe. Et donc, vous avez... D'ailleurs, vous prenez un homme politique, je le dis à chaque fois, un discours d'un homme politique musulman au Liban, il va conclure son discours par « Vive le Liban arabe ». Et vous prenez un chrétien qui va vous dire « Vive le Liban ». Il ne va pas dire « Liban arabe ».
Liban souverain.
Non, ils n'ont pas la même définition. Alors, tous sont nationalistes, libanais, entre guillemets. Mais qu'est-ce que la nation libanaise ? Chacun a une définition. En fait, pour le maronite, la nation libanaise, c'est lui. Et pour le musulman sunnite, la nation libanaise, c'est une partie de la nation arabe. D'ailleurs, quand les sunnites parlent des arabes, des autres pays arabes, quand ils parlent des étrangers, ils vous disent les étrangers et nos frères arabes. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas les arabes comme des étrangers. Le chrétien, lui, considère les arabes comme des étrangers.
C'est notamment le fameux article du professeur Dominique Chevalier que nous avons vu, qui disait comment l'État a été compris au Liban, et il vous explique que la conception de l'État n'est pas la même. Et concernant le chef de l'état-major d'État libanais, Rodolphe Elkan, moi j'ai également une suspicion, c'est qu'il a un agenda caché. C'est-à-dire que s'il imagine que la situation s'enquiste, que le Hezbollah n'est pas désarmé, qu'on reparte sur une situation, le mandat de Joseph Aoun arrive à échéance d'un peu moins de 4 ans, je crois, dans 4 ans, et bien que Rodolphe Elkan ne serait que, le sixième chef d'État. Laroud, Sleiman,
Aoun 2,
il ne serait que le cinquième à la suite, chef d'état-major de l'armée.
Fâcheuse habitude qui a été prise sous le régime.
D'ailleurs, ce qui montre qu'on n'a d'ailleurs même plus un président chrétien représentatif, mais un président qui n'est en fait qu'un représentant du semblant d'unité nationale qui reste de l'armée.
En réalité, à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, elles sont bloquées par le Hezbollah, qui ne veut pas, parce que quand il y a un candidat chrétien et qui est souverainiste, le Hezbollah n'en veut pas, il bloque la situation jusqu'au moment où les autres cèdent et acceptent un président chrétien de compromis. Et ben le compromis, on se dit bah tiens, on prend le chef de l'armée, on l'élit président comme ça, lui.
Rodolphe Elkan de penser être
évidemment celui du prochain tous les chefs coup, de l'armée depuis. Ben, comme c'est une habitude qui date de d'il y a 25 ans, c'était pas
et
le cas avant.
Qui date de Fouad Chehab de 58.
Oui, mais entre temps, il y a eu des civils. Et donc depuis 1998 exactement. Il n'y a que des militaires qui arrivent, c'est devenu une habitude, donc chaque fois qu'on nomme un commandant en chef de l'armée, son seul rêve c'est de devenir...
Syrie ou pas Syrie, parce qu'en 98 c'était la volonté d'ailleurs de Bachar al-Assad qui n'était pas présent, qui avait voulu imposer la route pour plusieurs raisons, non pas pour relancer les chrétiens mais parce qu'il voulait quelqu'un de poids face à Hariri.
Il a fait nommer pratiquement Émile Laoud, en fait il voulait une marionnette à sa botte, et il a trouvé le bon personnage.
Parce que pour contrecarrer également Hariri dans
ça c'était pas réussi, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait assassiner d'ailleurs, parce que le fameux pour contrecarrer Hariri, il a choisi un militaire à moitié illettré, le type il était général dans la marine.
Il avait fait les écoles d'état-major d'ailleurs,
je le connais bien, il était général dans la marine libanaise, qui n'existe pas. Et puis général dans la marine, je pense que c'est le seul pays au monde où en fait c'est une caricature, et puis vous l'entendez parler, c'est un semi-illettré ce type. Alors il a fait l'école de guerre et tout, bravo. Mais enfin,
Tous les officiers supérieurs libanais ont fait les cordes de guerre
en France. Oui, mais ils ne se valent pas tous. Je peux vous dire que j'en ai connu de la vieille école, qui avait fait Saint-Cyr, l'année d'application à Saint-Cyr. D'autres, c'était autre chose que ces clowns que l'on voit aujourd'hui. Donc moi, je prends j'en ai connu des officiers à la retraite qui avaient fait leur année d'application à Saint-Cyr dans les années 60. C'était quand même une autre affaire.
Alors justement, pour passer à côté de, notamment sur le Liban, il y a eu dans la région un sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Ankara. Ankara, il faut le rappeler, capitale de la Turquie. Turquie, deuxième armée de l'OTAN, il faut savoir, c'est un pays qui a conservé la conscription. Déjà, c'est une certaine force arménienne. Et puis au plan d'autonomie stratégique, je rappelle qu'il y a quand même les drones Bayraktar, le gendre d'Erdogan qui est présent. On sait qu'ils sont en train de travailler à un avion de chasse automatisé, etc. Donc la Turquie, c'est un pays qui, là, on peut vraiment parler d'autonomie stratégique. C'est-à-dire que non seulement ils sont dans l'OTAN, mais ils ont fait un pied de nez, pour ne pas dire un bras d'honneur aux États-Unis, quand il y a quelques années, ils ont acheté le système S-400 de défense antiaérienne aux Russes. Donc c'est-à-dire que les Turcs, tout en étant dans l'OTAN, disent « nous sont là, mais l'autonomie stratégique, c'est nous ». C'est-à-dire que même le général de Le Gaulle sorti de l'OTAN avait sa force de frappe nucléaire, mais n'en faisait pas autant sur le plan de l'autonomie stratégique. Et du sommet d'Ankara, justement, à partir de là, il y avait eu des inquiétudes, puisqu'on sait que Trump a une relation assez chaleureuse avec Erdogan. Il a donné carte blanche pour éliminer les Kurdes, notamment de Syrie. On sait qu'il veut lever l'embargo sur les F-35 américains. Et cela fait l'inquiétude, notamment, y compris des Syriens, de Benjamin Netanyahou, qui a compris que la Turquie, qui avait longtemps été, il ne faut pas l'oublier, un allié d'Israël, 1996, souvenons-nous, il y avait un accord de coopération israélo-turque qui visait la Syrie.
Et aujourd'hui, l'armée de l'air israélienne s'entraînait au-dessus de la Turquie avec l'armée de l'air.
Et aujourd'hui, il y a pratiquement un accord turco-syrien, puisque la Turquie est le parrain stratégique du nouveau régime syrien, contre Israël. Alors Richard Haddad, justement, est-ce que la Turquie, avec ce sommet de l'OTAN, on retient essentiellement le rôle de la Turquie, est-ce que finalement, ce n'est pas la Turquie qui risque, qui va de toute façon, d'une façon ou d'une autre, régler cas par cas au plan stratégique. Je rajoute que j'ai lu le L'Orient de jour il y a quelques jours, et que dans L'Orient le jour, j'ai vu, alors ça paraît assez sérieux, que la Turquie a même un plan pour le Liban, où en effet, ils proposent leur aide pour encadrer, entre guillemets, l'armée libanaise, en sachant qu'ils empêcheront Israël de rentrer, parce qu'il y a quand même il y a des relations diplomatiques, mais elles sont au plus bas niveau, notamment depuis Erdogan vis-à-vis d'Israël, et qu'également, ils contiendraient le Hezbollah, puisqu'il y a quand même une hostilité à l'Iran et au Hezbollah chiite, tout en ayant des bonnes relations avec la Syrie. Est-ce que justement, ce n'est pas la Turquie qui va résoudre des équations stratégiques?
Bon, quelle est la relation avec l'OTAN dans tout ça?
Ben justement, c'est le sommet de l'OTAN, que ça, Richard Adam.
Oui, moi je pense que la Turquie, alors il y a toujours les ambitions, en tout cas qui sont en partie réalisées, parce que la Turquie a réussi finalement en Syrie, puisque rappelons que le Joulani est un pion turc à l'origine. Alors tout ça se recoupe, parce que comme c'est l'homme d'Erdogan, par là même, il est devenu l'allié des Américains, etc. Mais la Turquie a une ambition, en effet, au Liban, mais je ne suis pas sûr. Elle pourrait, mais indirectement, parce que je ne vois mal les Turcs rentrer au Liban.
Via les sunnites. On sait, par exemple, Sadari, mais qui est en perdition totale, est allé il y a quelques années. Est allé à Istanbul, mais justement, ce n'est pas lui l'homme fort du sunnisme aujourd'hui au Liban.
Non. Les hommes forts, en fait, la Turquie a beaucoup d'influence dans la ville de Tripoli, dans le nord du Liban, où il y a pas mal de...
Islamistes radicaux, hein.
Ouais. C'est des islamistes radicaux. Bien évidemment, donc ils sont très influents. Alors, une chose nouvelle, c'est que d'abord, la Turquie est très influente à Tripoli, avec quelques personnalités connues qui sont ouvertement pro-turques, comme l'ancien patron de la gendarmerie libanaise, hein, qui est maintenant député. Bon, on sait qu'il est l'homme des Turcs, etc. Mais il y a quelque chose de nouveau, parce que Walid Jumblat, le Druze, vient de sortir ses mémoires. Et à la surprise générale, moi j'ai un peu lu, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu des extraits. Il fait l'éloge de l'Empire Ottoman. Il vous dit que sous l'Empire Ottoman, enfin, venant d'un Druze.
Ah ben, les Druzes ont été plutôt bien traités par l'Empire Ottoman.
C'est vrai,
ils ont massacré les chrétiens. Avec
absolument, mais en même temps, ils avaient des conflits avec l'Empire Ottoman. Parce que vous savez, c'était les vassaux. En gros, les grandes familles druzes étaient. C'était les vassaux des suzerains ottomans. Donc, entre suzerains et vassals, il y a toujours des conflits. Mais c'est vrai qu'ils avaient été soutenus par les Turcs. En tout cas, ils regrettent l'Empire ottoman. Non, mais moi, ce qui m'a un peu amusé, c'est pas le fait que, effectivement, c'est pas incohérent qu'une grande famille de Russes soit pro-ottomane. C'est pas ça. C'est que lui, il est le fils de Kamal Jumblat, qui est le chantre du nationalisme arabe, vous comprenez ? Le nationalisme arabe, c'est pas vraiment pro-ottoman.
Voilà, et qui a été éliminé par les Syriens.
D'ailleurs. Et donc, Kamal Jumblat, c'était vraiment la figure du nationalisme arabe dans les années 70.
Qui croyait d'ailleurs, alors Walid Jumblat est un homme qui a changé de vue. Kamal Jumblat est, je crois, vraiment un progressiste, un nationaliste arabe.
Absolument, il s'est converti au bouddhisme. C'était pas un chef de... Alors, il était druze, il profitait de son statut de la famille Jumblat, druze, etc. Mais lui avait fondé le Parti Socialiste Progressiste. Il s'est converti au bouddhisme. Il était un
nationaliste... Les druzes intègrent déjà des éléments du bouddhisme. Hein,
certes, voilà. Mais il voulait être... Kamal Jumblat, le nouveau Nasser. Vous savez, il voulait succéder à Nasser. C'est pour ça que les Syriens l'ont éliminé, d'ailleurs, parce que c'était un peu un concurrent. Il était en concurrence avec Arafat sur le plan de la figure nationaliste arabe, etc. Et donc, pour le descendant d'un nationaliste arabe, faire l'éloge de l'Empire ottoman, ça fait un peu rigoler.
Mais il y a une nostalgie d'Ottoman dans la population sunnite, jusqu'au Maghreb.
Absolument.
Vous allez en Algérie, par exemple, aujourd'hui, il y a une véritable ferveur pour Erdogan, pour l'Empire ottoman.
Et vous savez pourquoi
la faillite
du nationalisme arabe.
Voilà, c'est tout
ils
ça.
Ils se sont rendus compte que le nationalisme. Ça les a menés à rien.
Je projette d'écrire un livre, ça va appeler Le Crépuscule arabe, parce qu'aujourd'hui, à la fois l'Ottoman et le Perse, surtout l'Ottoman, sont en train de reprendre la main sur le monde arabe. Totalement.
Le monde musulman, j'ai rappelé il y a quelques minutes qu'il ne reconnaît pas les nations, il reconnaît la nation islamique. Et en tant que nationaliste musulman, finalement, ils se disent quel est le régime qui a le mieux défendu la nation islamique.
À Gaza, on prénomme les enfants Erdogan.
Oui, voilà. Ça ne m'étonne pas.
C'était à Gaza. Et en Algérie, il y a une ferveur, que je discute avec des Algériens, il y a une ferveur incroyable pour l'Empire ottoman.
Dans le monde sunnite, vous savez, ça se divise en deux. Le monde chiite, c'est l'Iran. Le monde sunnite, aujourd'hui, ce n'est pas l'Arabie Saoudite.
C'est la Turquie.
Notre ami les a appelés les éleveurs de chair, ce qui n'est pas faux. Ce n'est pas eux qui. L'homme de la rue du monde arabo-musulman. Il se dit finalement sous l'Empire ottoman, nous on est arrivé jusqu'à Vienne, on est arrivé.
Et il voit dans Erdogan un leader. D'ailleurs,
bien sûr.
Erdogan est
une puissance moderne de la Turquie, islamiste mais moderne. Vous rappelez qu'il fabrique des armes, etc. Une puissance crainte. Et en face de ça, il y a quoi? L'Arabie, les pays du Golfe qui sont à la première, au premier missile tombé sur eux, ils commencent à sortir leur chéquier pour dire s'il vous plaît, on vous paye, arrêtez. Ou l'autre, enfin, tout ça, vous comprenez? Donc, alors, pour revenir au Liban, oui, la Turquie peut intervenir indirectement via la Syrie. Mais j'y crois pas trop parce que la Syrie actuellement n'a pas du tout les moyens, contrairement à ce que j'entends à droite et à gauche, de rentrer au Liban. Non,
la situation est très tendue. Il y a beaucoup d'insécurité en Syrie. On l'a vu. Alors, même s'il y a eu des pétards spectaculaires avec Macron, ça va nous permettre de parler du voyage de Macron. Des pétards dans une benne à ordures, en général, c'est pour ça ne fasse pas de dégâts.
Oui.
Donc, je vous ai toujours posé la question.
L'armée syrienne aujourd'hui.
Mais il y a quand même un retour. Il y a quand même toujours une présence d'Al-Qaïda et il y a l'État qui n'est plus allié à Jolani. Il y a l'État islamique
Qui est considéré comme un traître,
qui est toujours fort, etc. Et il y a des milices, etc. Oui. Et
ils n'ont pas les moyens d'intervenir à l'étranger.
Alors justement, sur la Syrie, je voulais passer au voyage justement de Macron en Syrie, ce voyage aurait dû susciter plus d'émotions, puisque Jolani, il faut quand même le rappeler, est quelqu'un qui a appuyé et qui a soutenu et approuvé quand même le massacre du Bataclan. Et là, on a quand même véritablement une véritable forfaiture de la part de Macron, Pascal Mas.
Alors, avant de parler de ça, je vais répondre à ce que vous dites, et le mot forfaiture, je le garde pour le prochain dossier. Je voulais quand même dire, c'est que vous parlez de la Turquie en tant que spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Moi, je redoute la Turquie par rapport à sa gesticulation dans le Caucase et en Asie centrale. Et comme c'est un pays de l'OTAN, ils sont capables de créer des tensions en Ouzbékistan, au Tadjikistan, en Arménie, en Géorgie pour pouvoir provoquer la Russie sur son territoire.
Et on y reviendra sur la Russie. Pascal Mas, je reviens notamment sur le voyage.
Le voyage touristique de M. Macron avec ses lunettes de soleil à Damas, je trouve ça grotesque, tout simplement.
Surtout que ça n'a aucune retombée, je pense,
aucune
diplomatique.
Alors, j'allais dire qu'en politique, il n'y a pas de sentiment. Alors, moi, personnellement, comme vous, François, comme vous, évidemment, un dirigeant islamiste qui joue le modéré et qui a été mouillé dans des massacres, des attentats à Paris et tout, ça ne m'enchante pas vraiment, mais... Ça c'est dit, mais parallèlement, je comprends que si nos intérêts le commandent, et si on a des intérêts, dans la politique et la diplomatie, il n'y a pas de sentiment. Le problème, c'est que ce n'est pas ça. C'est que il a été Emmanuel Macron, on pourrait se dire, très bien, Joulani, c'est un ancien terroriste, il a tourné sa veste, d'ailleurs il est traité comme un traître par ses anciens copains, aujourd'hui la Syrie est à reconstruire, on pourrait avoir nos intérêts là-dedans. Très bien, mais ce n'est même pas le cas, parce que je peux vous dire que Joulani, d'abord, il n'a pas d'argent. Donc, il cherche des investisseurs. Alors, il en trouve parce qu'il est soutenu par les pays du Golfe. Donc, le Qatar, les Émirats, tout ça, ils mettent de l'argent. Donc, lui n'en a pas. Il veut reconstruire la Syrie, mais il veut qu'on vienne avec de l'argent. Mais pourquoi pas? On peut venir avec de l'argent et avoir des concessions. Mais en tout cas, il ne se tournera pas vers la France, Joulani. Il se tournera vers son protecteur, qui sont aujourd'hui les États-Unis. Donc, et les pays du Golfe, parce que c'est un peu la même chose, vous le savez bien. Et donc, Joulani, aujourd'hui, a été soutenu par les Américains, si bien que... c'est quand même... Je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, il avait fait une déclaration sur les intérêts sécuritaires du peuple libanais et syrien. Et il a dit, et pourquoi pas aussi... l'État. Il a dit, il faut trouver des solutions pour la sécurité et la souveraineté de l'État libanais et de l'État syrien. Et il a rajouté, et pourquoi pas de l'État israélien. On parle de Joulani. Mmh. Et donc, et pourquoi il dit ça? Parce qu'il est devenu l'homme des Américains avec l'argent des pays du Golfe. Et donc, tout ça pour dire qu'il ne va pas donner des chantiers, des investissements à la France. Donc, voyage inutile de Macron, avec ses lunettes de soleil, tout ça. Et en fait, ce monsieur, notre président, nous ridiculise. Oui. On est juste ridicule. Il sillonne le monde avec ses lunettes, avec ses déclarations loufoques. Ce monsieur nous ridiculise.
Oui, je crois que de toute façon, je pense qu'il était chez Johnny parce que c'est le dernier endroit où il peut aller.
Oui.
Je pense que voilà, il est.
Il interdit ses jours en Israël.
Aux États-Unis. En Israël, oui, on veut plus lui.
Afrique,
on veut pas lui. En Afrique, n'en parlons plus.
Il a essayé d'être neutre avec l'Iran. Il a dit on n'est pas concerné. On nous a tué un officier en Irak. On n'est pas concerné. Quelques jours plus tard, au Liban, on n'est pas concerné. hier, il y a sa photo dans un journal iranien, habillé en orange, avec Donald Trump, avec une cible sur la tête. Ouais. Bon, on ne peut pas faire plus violent, avec une cible sur la tête.
Mais il n'est pas concerné.
Il n'est pas concerné. Il y a une ambassade d'Iran à Paris, avenue Iéna. L'ambassadeur n'a même pas été convoqué.
Voilà, et qui met notamment des qui affiche le placard de Ramenei, etc. Oui, oui. Ça mort
ne convoque même pas l'ambassadeur. Vous avez un pays qui met votre président en cible et on convoque même pas l'ambassadeur. Normalement, on ne devrait pas convoquer l'ambassadeur, on devrait fermer l'ambassade.
Bien sûr, comme ça.
Il n'y a pas plus violent et plus insultant. On ne fait rien. Comment voulez-vous être respecté?
Pascal Mas, quelques mots sur ce voyage à Damas.
C'est ridicule, voilà. C'était du tourisme, c'était comme vient de le dire Richard Haddad, il n'y a même pas de retour à en espérer, c'était vraiment de la gesticulation parfaitement inutile. En plus, l'autre terroriste sait très bien que dans 9 mois, Macron ne sera plus là, donc c'était vraiment du temps perdu.
Remarqué qu'il n'a pas été reçu par le président à sa descente d'avion. Non. C'est le ministre de l'économie qui l'a reçu.
Oui, c'est une insulte. Alors que Jolani reçoit tout le monde.
Bien sûr.
C'est une insulte. Le chef d'État est reçu par le chef d'État.
Il envoie son ministre de l'économie.
Voilà. On a eu droit également. Alors, il a amené des prélats chrétiens d'Orient avec lui.
Ça. Oui.
Et il est quand même allé voir la communauté juive de Damas, qui en fait est une pièce de musée.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Je suis méchant pour ces juifs de Damas, mais il y en a quelques centaines. Et en fait, ils sont conservés là, à l'état de musée. Ils ont le droit de faire des prières, mais de rien faire. Plus de contact avec leurs familles qui sont partout,
etc. La plupart, vous savez que Bachar al-Assad leur interdisait de quitter la Syrie.
Oui, Hafez al-Assad avait autorisé une alia. Pourquoi? Parce qu'Hafez al-Assad, il y avait 40 000 Syriens. C'était beaucoup à l'échelle d'une alia. C'était énorme pour Israël. Et il savait très bien qu'il n'aurait plus les moyens de les défendre, notamment du fait des engagements, et qu'ils ne pouvaient plus couvrir les juifs, notamment. Comme peut-être bientôt les présidents français en France ne pourront plus couvrir les juifs de la peur des engagements français vis-à-vis du monde arabe.
Ah, oui.
C'est quelque chose qui est tout à fait comparable pour moi. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit, avec ce qui s'est passé à Sarcelles, on voit le manque de relations, il faut quand même en parler, le manque de réaction sur quand même une tentative qui aurait pu être catastrophique, c'est l'assassinat de plusieurs dizaines de juifs à Sarcelles par une entreprise terroriste. Ben, personne ne réagit. Parce que je pense que les présidents français, sous le poids du nombre de l'immigration et de l'islamisation en France, et également de la volonté des relations avec les pays arabo-musulmans, eh ben, ils sont prêts à sacrifier la communauté juive en France.
C'est en train d'être fait. Ouais. Vous rendez compte qu'il n'y a plus aucune réaction? Non. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, ça aurait ému. Là, c'est rien.
Oui,
on
était descendu dans l'île pour Carpentras il y a 30 ans, 35 ans,
oui.
Qui était en fait une escroquerie
malsaine
et glauque, etc. Alors là, qu'il y a eu 13 juifs tués depuis une quinzaine d'années en France, personne n'en parle. Alors, on va parler également, on va revenir, mais c'est une question internationale un peu franco-française, c'est le défilé du 14 juillet. Alors, le 14 juillet, je rappelle que le 14 juillet, c'est pas 1789, c'est 1790.
90, oui.
1789, il y avait quand même deux têtes coupées, celle de Launay, le gouverneur de la Bastille, et du prévôt des marchands, du maire Flessel, qui a été balancé dans Paris. Alors, en 1880, quand on a fait la fête, entre guillemets, nationale, on a dit que c'était le 14 juillet 1790, qui était la fête de la Fédération, qui était une bouffonnerie, mais une bouffonnerie qui n'était pas sanglante, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu quand même une messe célébré par Talleyrand, qui avait cette capacité particulière, c'est entre autres, c'est qu'il était évêque d'Autun à 40 ans, mais qu'il ne savait pas dire la messe, et il fallait le savoir. Alors ça, il faut entendre Jean Tullard le raconter magistralement dans les cours de la Sorbonne, et qu'il y avait l'abbé Louis, qui était en quelque sorte son âme damnée, qui te mettait sous l'estrade et qui lui mimait les gestes à faire pour la messe, puis Talleyrand ne savait pas y dire, donc c'était une plaisanterie. J'avouerai que moi, j'ai un 14 juillet, alors... particulier, vous me permettrez d'en parler, c'est le 14 juillet 1755, c'est l'insurrection corse contre Gênes et la nomination de Pascal Paoli, général de la nation, et le serment dans le monastère le couvent doré, voilà, en Corse, c'est-à-dire même Pascal Paoli, qui était un homme des Lumières, prêtait serment notamment sur la Bible et sous la couverture de la Vierge, a lancé quand même l'insurrection qui était pour moi une des pages contre Gênes, qui a été une des pages les plus glorieuses de la Corse, 1755. Rappelons que Pascal Paoli avait un jeune qui l'admirait, c'était un jeune officier français, corse français, qui s'appelait Napoléon Bonaparte, et que si on ne comprend pas l'épopée de Paoli, on ne comprend pas celle de Napoléon. Voilà, c'était une parenthèse, ce sera mon 14 juillet à moi, chers amis auditeurs, vous m'excuserez d'en parler. Mais on va parler du 14 juillet français. Alors, c'est en quelque sorte le point d'orgue, la dernière scène, le dernier acte d'Emmanuel Macron, et là, je pense qu'on a le cocktail le concentré, c'est-à-dire que on a à la fois, alors déjà, il y avait une habitude, c'est-à-dire qu'il y avait un pays invité, le défilé n'était plus tout à fait un défilé français. Je rappelle de Valéry Giscard d'Estaing en 1994, qui avait vu dans un des rares moments d'émotion, qui avait dit voir les troupes allemandes sur les jets, ça fait quelque chose quand même. Et même Friedrich Carstens, pourtant né à Koblenz, hein, proche de l'armée allemande, avait été ému de voir l'armée allemande, etc. Bon, il y avait eu d'autres pays qui avaient été invités, mais il y a en quelque sorte là, je pense qu'Emmanuel Macron, par contre, on ne peut pas lui reprocher d'être franc. Il ne fait pas du en même temps. Sur la question européenne, sur le fédéralisme, il a toujours été franc. Il a été élu à drapeau européen. Et moi, ça me fait penser un peu cette phrase de... Vous savez, Macmillan disait à De Gaulle, quand De Gaulle lui mettait un veto, il disait Macmillan disait « De Gaulle says Europe, but he thinks France. » Quant à Macron says France, but he thinks Europe. C'est-à-dire, quand il pense, il met en avant des concepts tels que l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie stratégique, il ne les penche jamais à l'échelle française, il les penche à l'échelle européenne. Là, en fait, avec les 25 invités, en fait, Emmanuel Macron, on peut tout lui reprocher, comme Jean Monnet. Jean Monnet, on peut reprocher son projet, mais Jean Monnet a toujours été franc. Il a toujours écrit que le projet fédéraliste européen était une étape vers la gouverne mondiale. Et en fait, si Emmanuel Macron signe, il y en a qui s'offusquent. Non, Emmanuel Macron ne fait que signer son départ politique avec un agenda caché qui est le rapport Verhofstadt. Le rapport Verhofstadt voté par le Parlement européen, il faut le savoir, juste avant la fin de la dernière mandature, Verhofstadt était le président du groupe Renew dans lequel font partie l'ancien Premier ministre belge, hein, d'un pays aussi improbable, fédéraliste, européen, et dans lequel on dit qu'on va fusionner, on souhaite fusionner la présence du Conseil et de la Commission, et surtout au plan des affaires étrangères et de défense, passer à la majorité qualifiée, c'est-à-dire que finalement vous n'avez plus besoin de diplomatie de défense, puisque ça dépend d'Europe, il y aura une armée européenne, et Emmanuel Macron commence à nous mettre déjà un embryon d'armée européenne. Alors je vais commencer par vous, Pascal Mas, est-ce que véritablement, pour une fois, Emmanuel Macron est dans le vrai ?
Moi, je suis révolté. Parce que cette parade digne du Club Méditerranée, où on fait venir 25 pays, dont certains des bouffons, je pense à la Pologne qui envoie trois représentants.
C'est pas des bouffons, c'est-à-dire que ça tourne un peu à la farce.
Mais bon. Le Liechtenstein, enfin bon...
Oui, il y a le Liechtenstein aussi.
Oui, non, pardon de vous couper, mais il y a beaucoup de bouffons, je suis d'accord, mais peut-être pas la Pologne, parce que s'il y a une armée en Europe qui est considérée comme correcte, parce qu'il y a d'autres nations en Europe où leur armée, c'est pas grand-chose.
Vous ne pouvez pas qualifier les peuples de bouffons,
j'accepte,
dire que ça tourne à la bouffonnerie,
j'accepte,
etc.
Bon, quand l'Espagne envoie 23 représentants, les Pays-Bas 8, l'Italie 5...
Des pays qui n'ont pas d'armée, en fait.
L'Italie envoie 5 représentants, la Grèce 24, la Hongrie 21, la Belgique 23, et bien entendu l'Ukraine envoie 24 représentants, dont le bouffon, le vrai bouffon, le clown numéro 1, qui sera sur la tribune, malgré toutes ces avanies, tous ces scandales de corruption, de gestion absolument mafieuse de son pays, qui n'est d'ailleurs même plus président depuis le 19 mai 2024, je le rappelle, mais qui continue à parader, à venir demander de l'argent pour pouvoir s'en mettre plein les poches et donner 11 millions de dollars à ses parents. Bon, c'est ça le 14 juillet de M. Macron 2026. Ça me répile, parce que la qualité de nos soldats, la liaison entre l'État et son armée, entre le peuple français et son armée, sont dévolues à une parade ridicule, complètement pervertie et prostituée à une idéologie européiste qui est absolument détestable.
Richard Haddad.
Oui, ça fait quelques années que le 14 juillet, on essaye, en fait...
Est-ce que ce n'est pas une tendance lourde aussi des partis politiques français? Si
bien
vous
sûr.
Êtes, à l'exception des souverainistes, encore du Rassemblement National ou d'autres partis, finalement, est-ce que ce n'est pas une évolution qui date de 30-40 ans?
Si, c'est la méthode Coué, c'est-à-dire qu'on essaye... Ouais. Vous savez, ça fait partie de la propagande, ça. On essaye, par l'image, par le symbole, de faire entrer dans la tête des Français que la France et l'Europe. Alors, la meilleure façon de le montrer, c'est en transformant nos forces militaires en forces militaires. Ça, c'est le fantasme des Européens, c'est-à-dire faire une force militaire européenne. En réalité, elle n'existe pas. Alors moi, je parlerai pas de bouffons, mais il y a des pays en Europe, l'Union européenne, c'est combien de divisions, comme disait l'autre, Staline. C'est, à part l'armée française et l'armée polonaise, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, on parle des Pays-Bas, de la Belgique, l'armée italienne et encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'Allemagne n'a pas d'armée. je veux dire une vraie, hein, pas une armée défensive, tous ces pays n'ont pas de militaires. Alors, on fait croire aux Français qu'il y a une force militaire européenne et on fait défiler, comme vous le dites, quelques dizaines de soldats. En réalité, la seule force armée valable en Europe, c'est la nôtre. Et on essaye de la diluer dans un magma européen qui n'existe pas. C'est, vous voyez, c'est espèce de propagande. Et donc, on essaie de le faire chaque année. Ça fait longtemps, hein, vous avez rappelé Giscard d'Estaing, etc. Donc, chaque année, on en remet une couche, comme ça. Et moi, je plains nos militaires, nos soldats qui sont de qualité et qui sont obligés de participer à ce cirque, alors que nous, on aimerait voir nos valeureux soldats qui ont du mérite et qui subissent beaucoup de choses, qui ont des budgets limités. Alors, Macron se vantait cet après-midi d'avoir augmenté le budget.
Oui, mais sur l'augmentation, c'est essentiellement de l'armement et de l'armement qui est souvent destiné à l'Ukraine.
Oui, mais c'est largement insuffisant. Ça reste largement insuffisant.
Bien sûr. Voilà. Cher François,
donc, ce n'est pas un réarmement stratégique des armées.
Non,
les armées sont toujours à l'os, elles ont toujours un manque de balles, de munitions et d'entraînement.
Écoutez,
etc.
J'ai dans mon émission
de l'armement qui va pour l'Ukraine. Vous êtes sûr?
Dans une émission que j'ai faite sur cette antenne, on parlait de cinéma. Vous voyez, je rappelais ce film sur Colvézi, l'opération Colvézi, et on rappelait que déjà en 1978, lorsqu'on a envoyé le deuxième REP de Calvi pour sauter sur Colvézi et sauver nos compatriotes qui étaient pris en otage par les rebelles, on a dû emprunter du matériel américain parce que déjà, en 1978, on manquait de moyens de transport, etc. Vous voyez, c'est pas nouveau.
Alors, le réarmement, le budget et tout ça, François, vous en avez parlé brièvement, c'est pour l'Ukraine. Mais il se trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on retrouve en Afrique. Notamment des armes de poing, ce genre de choses qui ont été payées par les Européens. Alors quelquefois aussi il y a du matériel américain payé par les Européens qui se retrouve en Afrique ou sur d'autres théâtres. Et donc là, ça va être la valorisation de ces trafics, ça va être le défilé de demain matin. Moi je suis complètement révolté.
Et on aura demain matin un Emmanuel Macron avec ses lunettes à verre miroir.
Du soleil, oui.
Regarde, parce qu'en fait vous savez que c'est le fantasme d'Emmanuel Macron.
C'est Top Gun.
Oui, c'est d'être... Non, mais avant même les lunettes, souvenez-vous, lorsqu'il a été élu la première fois, il a voulu...
Il s'est fait élitreuiller en combinaison.
Oui, voilà. Donc, en fait, il veut jouer au militaire, vous voyez. C'est...
Alors qu'il n'a pas fait de service militaire.
Il n'a pas fait de service. Non, pour une fois, je vais le défendre, ce qui ne m'arrive jamais.
Il est passé à travers.
Il n'était pas... Non, mais c'était... Il est jeune, Emmanuel Macron.
Oui, en 1996, il n'avait
plus... Oui, mais il n'était plus... Ce n'était plus... Il n'y avait plus de service militaire lorsqu'il devait le faire, voilà. Donc bon, il n'a pas échappé, il n'a pas fui le service militaire.
Alors qu'avant, vous savez que les énarques étaient obligés de le faire comme officier en plus.
Oui, absolument. Voilà. Mais lui, le service militaire n'existait plus lorsqu'il devait le faire. Bon, très bien.
Hollande était exempté du service, mais énarque, même à sa myopie, il a quand même insisté pour faire le service comme EOR, etc., parce que ça lui aurait coûté.
Mais Emmanuel Macron n'était pas, l'âge de le faire, il n'y avait plus de service militaire.
Du fait, encore une...
Mais jouer aux militaires comme ça, c'est juste ridicule. Vous savez, quand vous n'êtes pas militaire, jouer aux militaires...
Bien sûr.
Et je me souviens lorsqu'il avait sermonné le général de Villiers en disant, à travers une conférence de presse où il dit aux journalistes, « C'est moi le chef des armées. » J'ai envie de lui dire, mon vieux, oui, effectivement, sur le papier... Selon la Constitution, le chef de l'État est le chef des armées, mais enfin, vous n'êtes pas un militaire.
Rappelons quand même que Pierre de Villiers avait été nommé par Nicolas Sarkozy, que François Hollande, qui avait quand même plus de sens de l'État qu'Emmanuel Macron.
Absolument, il l'a conservé.
L'avait conservé parce qu'il avait jugé que c'était un homme tout faisable, alors qu'il n'avait pas ses idées. Hollande avait même conservé son chef du cabinet militaire, le général Benoît Pulgar, qui était connu pour être un cateau tradit, pour aller à Saint-Nicolas-Chardonnay. Alors ensuite, il l'avait remplacé, mais dans un premier temps...
Ah mais il était son aide de camp.
Il l'avait quand même maintenu chef du cabinet militaire, c'est un général 5 étoiles ou un amiral. Hein. Il l'avait maintenu parce qu'il savait que ces gens-là avaient un sens de l'État au-dessus de leur idée. Hollande avait au moins un peu de sens de l'État. Voilà,
ça m'arrivera presque jamais de défendre François Hollande. Pas presque jamais, jamais. Mais pour une fois, ça fait deux exceptions. Sur le plan de la politique étrangère, il a fait éliminer des terroristes islamistes, François Hollande.
Et il l'a assumé.
Voilà. C'est déjà, parce que ce n'est pas le cas de M. Macron qui nous a ridiculisés dans le monde entier.
Alors pour terminer, Pascal Mas, une affaire que vous connaissez bien. La relation russo-ukraino-polonaise.
Alors,
la Pologne et l'Ukraine, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est un pays qui a été souvent uni Et il y a même une...
Souvent en guerre aussi.
Et en guerre, mais il y a eu également des grandes principautés, il y a eu le chevalier teutonique, il y a eu une grande géostratégie. Alors, parlez-nous un peu de cette affaire entre la Pologne et l'Ukraine.
Bon, alors, au risque de me répéter
vous
à chaque fois...
Vous toujours sur le front de l'Est.
Voilà, exactement, et j'en suis fier.
On dira pas lequel.
Mais je m'en fous. Bon, donc, au risque de me répéter à cette antenne, je rappelle que Ukraina, ce sont deux mots, et ce n'est pas le nom d'un pays, ça veut dire le territoire, au-delà du territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas le nom d'une région, ni d'un duché ou d'une principauté, et n'en déplaise aux nationalistes ukrainiens d'aujourd'hui, les frontières de l'Ukraine actuelle sont celles qui ont été découpées par Staline, en l'occurrence en piquant des territoires sur la Pologne, le nord-ouest, dont la population est chrétienne catholique et de tradition culinaire polonaise. Et le sud, une partie a été piquée aux Slovaques et une partie aux Roumains. Donc cet État qu'on présente comme une grande nation...
Mais sur l'affaire ukraino-polonaise, il nous reste 2 minutes.
Alors, pourquoi j'ai rappelé quand même qu'une partie de l'Ukraine était polonaise historiquement, c'est que pendant la période 41-45, les Ukrainiens se sont distingués notamment vis-à-vis des populations civiles polonaises.
Et des populations juives aussi. Hein.
Surtout, mais aussi, pas que les juifs. C'est pour ça que les Polonais d'aujourd'hui en tiennent terriblement rigueur au clown de réhabiliter les anciens nazis et ceux qui s'en réclament en redonnant à des bataillons de l'armée polonaise des noms de bataillons de la bande de...
Oui, on imagine aujourd'hui l'Allemagne, le bataillon s'appelle
Azov.
Voilà, non, mais le nom qu'on a donné au bataillon en Ukraine,
UPR. Oui.
Et imaginez en France l'Allemagne qui reforme une division, elle appelle une division Das Reich.
Absolument.
Das Reich, c'était la division qui avait commis le massacre de Radio-Souglad. C'est exactement la même chose.
Et la place centrale de Lyon, au nom de Klaus Barbie. C'est à peu près ce...
Parce qu'il y a des places Stéphane Bandera, etc. Ouais,
exactement.
En Ukraine, ouais.
Des avenues Stéphane Bandera et des places, etc. Et d'ailleurs, le clown fait détruire les monuments de...
Appelez-le Zelensky, s'il vous plaît.
Bah, c'est son métier.
Non, mais vous continuez. C'est Zelensky, s'il vous plaît, je vous corrige. Voilà.
C'est son métier. Hein. Bon, c'est celui qui joue du piano sans les mains. Bon, donc, je maintiens qu'ils font détruire des monuments soviétiques à la mémoire des combattants de l'armée rouge qui ont libéré cette partie de l'Europe pour y installer des monuments au souvenir de Bandera et sa bande. C'est quand même quelque chose. Et l'Europe, silence.
Enfin, je trouve ça normal.
Richard Haddad,
si j'étais ukrainien, je préférais Bandera à l'armée rouge.
Richard Haddad n'a pas la même position sur la mémoire ukrainienne, peut-être.
Non, parce que je suis... pas totalement en désaccord avec ce que vous dites sur le plan géographique Pologne, c'est factuel. En revanche, je peux comprendre, alors évidemment c'est choquant quand il y a un nazi, etc. Mais enfin Bandera, c'est un peu particulier. Moi, si je suis nationaliste ukrainien, je préfère Bandera à l'armée rouge, hein, pardon. Enfin l'armée rouge pour moi n'a rien libéré. Hein. Elle a libéré des nazis pour l'occuper elle-même et faire encore plus de morts que les nazis. Donc bon. Je comprends qu'on détruise, moi vous savez, des statues de l'Union soviétique détruites, je suis toujours pour.
Voilà, alors écoutez, sur ces mémoires, ces mémoires qui ne sont pas toujours partagées, mais qui sont brûlantes, et en tout cas, toujours passionnantes à se discuter, chers amis, bonne soirée, merci à Pascal Mas, merci à Richard Haddad, et espérons-le, dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir, dirigé aujourd'hui par François Costantini, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 13 juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.